Bonjour et bienvenue sur FM Plus dans notre magazine hebdomadaire Rencontre. André Bourguet au micro. La rencontre œcuménique régionale annuelle vient de se tenir à Montpellier pour rendre compte d'un texte de convergence mis au point par des instances œcuméniques supérieures et intitulé « L'Église vers une vision commune ». Le père Joseph Fameret de l'Université catholique de Louvain, en Belgique, pour ceux qui auraient oublié leur géographie, nous donne son sentiment sur ce document, un point de vue catholique qui sera suivi dans une autre émission par un point de vue protestant.
Bonjour à toutes et à tous, et je vous remercie de m'avoir invité. Cela me permet aussi de visiter la ville de Montpellier pour la première fois. Et donc... Et de vous rencontrer, bien sûr, mais c'est intéressant de pouvoir visiter cette belle ville de Montpellier. Comme on vient de l'indiquer, je vais reparcourir d'un point de vue catholique le document « L'Église vers une vision commune ». Et au fil de ma relecture, je vous dirai mes accords, mes accentuations, mes questions également à propos de ce document. Comme nous l'a déjà indiqué le pasteur Jacot dans son introduction éclairante, ce document de foi et constitution se présente comme un texte de convergence à la manière de son grand prédécesseur, Baptême, Eucharistie, Ministère de 1982. Lui aussi, soumis aux réactions des Églises, comme ce dernier document. Cette demande de réaction des Églises est motivée par deux intentions distinctes, mais étroitement liées. Premièrement, une intention de renouveau des Églises, du fait qu'il s'agit d'un texte œcuménique multilatéral. On ne saurait l'identifier de manière exclusive à une tradition ecclésiologique particulière, ce qui devrait permettre aux chrétiens de différentes églises, de différentes traditions, de constater qu'ils se rapprochent de plus en plus les uns des autres et qu'ils s'identifient progressivement à l'image biblique du corps unique. Deuxième objectif, c'est l'accord théologique sur l'Église entre les différents chrétiens. Les réactions officielles au présent document non seulement permettront de jauger la convergence réalisée par foi et constitution, mais reflèteront aussi le niveau de convergence entre les Églises, précisément sur l'ecclésiologie, sur la compréhension théologique de l'Église, et cette convergence ecclésiale sur cette question clé du dialogue actuel jouera un rôle décisif dans la reconnaissance mutuelle entre les Églises. Il est bon de ne jamais perdre de vue cette double finalité dans la lecture de l'Église vers une vision commune. Donc, renouveau ecclésial et jusqu'où va aujourd'hui notre accord théologique sur notre compréhension de l'Église. Penchons-nous d'abord sur la structuration d'ensemble du document, avant de nous arrêter davantage sur le chapitre 3, qui est plus directement l'objet de réflexion de cette journée. Je pense qu'on ne peut bien apprécier le chapitre 3 que resitué dans l'ensemble. On entend bien, oui, ça va? Ou il faut parler plus fort, non, ça va? Première section, la structure d'ensemble, dont nous avons déjà eu tout à l'heure un aperçu. Le document se compose de 4 chapitres intitulés respectivement « La mission de Dieu et l'unité de l'Église », premier chapitre, « L'Église du Dieu Trine », deuxième chapitre, « L'Église croître en communion », troisième chapitre, « L'Église dans et pour le monde », quatrième chapitre. Je relève avec une grande satisfaction que l'Église est d'abord inscrite dans la mission de Dieu, c'est-à-dire plus précisément dans la mission que Dieu lui confie au sein de son projet de salut pour l'humanité. Par le fait même, je le note avec autant de satisfaction, la quête de l'unité de l'Église s'inscrit dans ce projet divin de salut. L'écuménisme, ou la recherche de l'unité visible des chrétiens, a pour finalité même la mission de l'Église, l'annonce de la bonne nouvelle, le salut du monde. Il est bon de toujours se rappeler ce large horizon du travail écuménique lorsque nous peinons à nous rapprocher entre chrétiens sur l'interprétation de notre foi commune. Ne nous enlisons pas dans les querelles internes ou dans le nombrilisme confessionnel. Sachons toujours nous resituer par rapport à la question essentielle. Quelle est l'importance de cela, de la question qui nous sépare apparemment, que nous discutons? Quelle est l'importance de cela pour le salut du monde? Car dans l'unité chrétienne bien comprise, c'est la crédibilité même du salut chrétien et de son annonce qui est en jeu. Non seulement l'Église s'inscrit dans la mission de Dieu, mais comme l'indique le chapitre 4, sa raison d'être est la mission dans et pour le monde. L'Église naît de la mission de Dieu et est pour la mission, jamais pour elle-même. Ce double décentrement de l'Église, en amont et en aval, est capital, me semble-t-il, pour une bonne ecclésiologie équilibrée et chrétienne. Le chapitre 2, en un lien fort avec le premier chapitre, atteste cette origine théologale, trinitaire de l'Église. Je rappelle les sous-titres, l'Église du Dieu trine, l'initiative de Dieu, le peuple de Dieu, corps du Christ et temple du Saint-Esprit. L'Église est une koinonia, une communion, elle est un peuple prophétique, sacerdotal et royal, une communion dans l'unité et la diversité, une communion d'Église locale. C'est précisément à l'intersection de l'Église comme envoyée par le Dieu trinitaire et comme envoyée au monde que se situe notre troisième chapitre sur l'Église, croître en communion. Cette structure d'ensemble manifestant bien l'origine et la finalité de la croissance en communion ecclésiale. À la fin du premier chapitre, section C, l'importance de l'unité, je suis d'accord avec la condition de réalisation de l'unité visible qui est énoncée. Je cite, c'est le numéro 9, « Il faut que les églises puissent reconnaître les unes chez les autres la présence de ce que le credo de Nicée-Constantinople, 381, appelle l'Église une sainte catholique et apostolique. » Fin de citation. Tel est l'objectif ultime de l'écuménisme, cette reconnaissance ecclésiale mutuelle, quelles que soient les conversions et les réformes à opérer par les uns et par les autres, pour employer le langage du groupe des dons. Il faut en tout cas, et c'est bien le premier pas décisif, sortir d'une identification exclusive de sa communauté ou église avec l'Église du Christ. Le chapitre 2, section B, présente l'Église du Dieu trine, comme koinonia, communion, en réponse précisément à l'initiative de Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. ce peuple de Dieu est tout entier, prophétique, sacerdotal et royal. J'y note avec intérêt ce passage en référence d'ailleurs au bème déjà cité. Et je cite le numéro 19, « Tous les membres du corps, ordonnés et laïcs, sont des membres interconnectés du peuple sacerdotal de Dieu, sans ignorer que leur propre ministère dépend de lui. Les ministres ordonnés rappellent à la communauté qu'elle est en dépendance de Jésus-Christ, lequel est la source de son unité et de sa mission. Pour autant, ils, les ministres ordonnés, ne peuvent réaliser leur vocation que dans et pour l'Église. Ils ont besoin qu'elle les reconnaisse, les soutienne et les encourage. » Fin de citation. Voici une vision globale, certes, mais très juste, me semble-t-il, du ministère ordonné, partagé, notons-le, par des représentants des grandes traditions chrétiennes, dites historiques, au moins celles-là, anglicanes, catholiques, luthériennes, méthodistes, orthodoxes et réformées, celles qui étaient représentées dans le comité de rédaction de ce document. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien qu'autant de traditions chrétiennes, historiques, reconnaissent ces points essentiels du ministère ordonné. En quoi cette vision du ministère ordonné est-elle juste à mes yeux? Elle situe d'abord le ministère ordonné au sein du peuple tout entier sacerdotal, en interconnexion avec les autres membres de ce peuple. Les ministres ordonnés ne peuvent réaliser leur vocation que dans et pour l'Église, toujours à son service, jamais pour leur propre compte et ni évidemment contre elle. Ils ne lui sont ni extérieurs ni supérieurs. Simultanément, leur rôle spécifique et indispensable, lui-même en dépendance de Jésus-Christ, est bien identifié dans ce passage. Et quel est ce rôle indispensable? En faisant face à la communauté, mais du sein même de celle-ci, préciserai-je pour ma part, il s'agit de rappeler à la communauté qu'elle vient de la grâce d'un autre, avec A majuscule, et qu'elle ne s'auto-constitue pas par elle-même. En quoi, cependant, la vision du document, à ce stade du moins, est-elle globale ou générale? Elle ne dit rien de la forme précise et concrète du ministère ordonné, même s'il y a accord sur sa triple fonction. Il est un ministère de la parole, des sacrements et de vigilance. Mais rien à ce stade n'est non plus précisé quant à la compétence de prendre des décisions en dernier recours pour la communauté. C'est cette fameuse question, après avoir bien débattu en communauté, qui est habilité à trancher, notamment en cas de désaccord. C'est une question qui reste pendante. Est-ce la compétence exclusive des ministres ordonnés? Les laïcs y ont-ils un rôle à jouer dans cette prise de décision ultime? La question du ministère ordonné rebondit un peu plus loin dans les numéros consacrés aux attributs de l'Église. Une, sainte, catholique et apostolique. Tout d'abord, ces notes sont comprises dans un sens, ces attributs sont compris dans un sens dynamique. Elles sont des dons de Dieu à l'Église que les chrétiens sont en permanence appelés à actualiser. Donc, les notes de l'Église, les attributs de l'Église, selon le symbole de Nicée-Constantinople, hein, sont compris comme un don et une tâche. Précisément, à propos de l'apostolicité de l'Église, il est noté que la communauté chrétienne est appelée à être toujours fidèle à ses origines apostoliques et que toute infidélité dans le culte, le témoignage ou le service contredit l'apostolicité de l'Église. Ces affirmations sont importantes. La pleine authenticité de l'apostolicité de l'Église n'est jamais assurée une fois pour toutes, de manière automatique en quelque sorte. Encore faut-il que l'Église veille à être toujours fidèle à ses origines apostoliques. L'apostolicité est un don à actualiser. Plus spécifiquement, l'apostolicité de ministère ou de succession ministérielle doit toujours veiller à servir l'apostolicité de foi ou de doctrine qui est celle de l'Église entière. Le ministère apostolique est second par rapport à la foi apostolique qui est portée par l'ensemble de la communauté, par l'ensemble de l'Église, et le ministère apostolique ne peut qu'être au service de cette foi de toute l'Église. D'une manière plus globale est ici posée la question de la rencontre et de la relation entre le divin et l'humain dans l'Église. Ici, les églises chrétiennes ont des sensibilités différentes. Quel est le mode de relation entre l'activité de l'Esprit-Saint dans l'Église et les structures institutionnelles ou l'ordre ministériel? Point d'interrogation. Certains aspects essentiels de la constitution de l'Église peuvent-ils être attribués à la volonté de Dieu? Point d'interrogation. En conséquence, s'ils peuvent être attribués à la volonté de Dieu, est-il impossible de les modifier? Point d'interrogation. Toujours au chapitre 2, section C, l'Église, signe et servante du dessein de Dieu pour le monde, est abordée l'appellation de l'Église comme sacrement, qui divise les Églises entre elles. S'il est assez généralement admis, nous dit notre document, que Dieu a établi l'Église comme moyen privilégié pour réaliser son dessein universel de salut, certaines communautés, pour exprimer cela, parlent de l'Église comme sacrement, tandis que d'autres rejettent catégoriquement cette expression. Donc c'est au numéro 27. La crainte de ceux qui rejettent catégoriquement cette expression, la crainte est qu'en utilisant cette expression, Église comme sacrement, on risque de brouiller la distinction entre l'Église considérée dans son ensemble et les sacrements individuels, et que l'on puisse ainsi en arriver à méconnaître le péché toujours présent chez les membres de la communauté. Fin de citation. Je vous dis tout de suite qu'une crainte similaire fut exprimée par certains pères du Concile Vatican II, donc il y a 50 ans. Mais, à mon avis, si on lit attentivement le premier chapitre de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, de Vatican II, je pense que cette crainte n'est pas fondée. La divergence porte en fait sur la compréhension de la nature et du rôle de l'Église et de ses rites dans l'activité salvifique dont Dieu, tout le monde le reconnaît, est l'auteur. Mais par rapport à Dieu, l'auteur de l'activité salvifique, quelle est la nature et le rôle de l'Église? C'est la question qui reste pendante avec celle des ministères. La quatrième section du chapitre 2 traite de la diversité légitime dans l'unité de la communion ecclésiale. et pointe à juste titre, à mon avis, ce qui fait défaut actuellement pour discerner une diversité légitime dans les relations entre les différentes églises. Et ce qui manque, ce sont des critères ou moyens de discernement communs, qui nous soient communs à tous, et des structures ministérielles aussi pour les appliquer. Comment rendre possible un tel discernement commun, commun aux différentes églises ? Ben, c'est la question que nous laisse le document. Dans sa cinquième et dernière section, le chapitre 2 aborde la communion d'églises locales. La plupart des chrétiens, y lit-on, numéro 31, seraient prêts à admettre que l'église locale est une communauté de croyants baptisés dans laquelle la parole de Dieu est prêchée, la foi apostolique est confessée, les sacrements sont célébrés, l'œuvre rédemptrice du Christ pour le monde est attestée et un ministère d'épiscopat est exercé par des évêques ou d'autres ministres au service de la communauté. Fin de citation. C'est considérable. Par le nombre de chrétiens, semble-t-il, prêts à admettre cette définition, mais aussi par la qualité de la définition qui reprend tous les éléments constitutifs de l'ecclésialité aux yeux, par exemple, de l'Église catholique. Alors, je note aussi l'affirmation très juste à mes yeux, je cite, « L'Église locale est totalement Église, mais elle n'est pas l'Église tout entière. » Je note cela, car dans mon Église, dans l'Église catholique, cette affirmation n'est pas toujours tenue avec précision. En effet, on y entend parfois une expression parfaitement contradictoire à mes yeux, l'Église universelle, c'est-à-dire entière, l'Église universelle ou entière est présente dans chaque Église locale. Non, non, mes yeux, non. L'Église catholique, au sens qualitatif du symbole de foi de Nicée-Constantinople, l'Église catholique, la catholicité de l'Église, elle est pleinement présente dans chaque église locale, mais pas l'église universelle. Car l'église universelle est précisément la communion de toutes les églises locales. Et donc, aucune église locale à elle toute seule ne saurait être l'église entière ou universelle. Du moins dans mon ecclésiologie, que tous les catholiques ne partagent pas nécessairement. Vous savez qu'il y a une grande diversité également au sein de l'église catholique. Si un certain accord peut exister sur les éléments constitutifs d'une église locale, il faut cependant reconnaître avec le document les divergences qui subsistent à propos de l'extension géographique de l'église locale et du rôle de l'évêque par rapport à celle-ci. L'évêque, en tant que successeur des apôtres, est-il essentiel pour la réalité de l'église locale ? Dans ce cas, c'est le diocèse, et c'est la position catholique. Mais voilà, c'est une question qui surgit de ce document de convergence. Ou bien l'Église locale, sans référence au ministère d'un évêque, est-elle, je cite, simplement l'assemblée des croyants réunis en un même lieu pour écouter la parole et célébrer les sacrements, donc ce peut être une paroisse. Plus globalement, ce qui est en cause, c'est le mode de relation entre les niveaux local, régional et universel de l'ordre ecclésial. Là, je crois qu'on a encore beaucoup de travail pour arriver à plus qu'une convergence sur la manière d'articuler ces différentes dimensions de l'être ecclésial de l'Église. Plus globalement, oui, c'est ce qui est en cause, c'est bien donc cette difficulté des relations entre les différents niveaux de l'ordre ecclésial, de même que les ministères spécifiques de direction nécessaires pour servir et développer ces relations entre églises locales. Là, nous sommes encore dans une certaine divergence. Sur la base d'un accord ecclésiologique fondamental, mais général, et manquant de précision sur certains points, il subsiste donc de sérieuses questions à approfondir qui ne manqueront sans doute pas de réapparaître au chapitre 3 du document de foi et constitution, l'Église croître en communion. Et c'est maintenant ce chapitre 3 que j'aborde, croître en communion.
Réseau FM Plus, radio associative régionale émettant sur Montpellier et Nîmes. Le père Joseph Fameret vient de situer les points de difficulté du document œcuménique l'Église vers une vision commune. Il entre maintenant dans le vif du sujet avec sa seconde partie, croître en communion.
J'aime ce titre, croître en communion. J'aime ce titre car il présuppose une communion existant déjà entre les églises chrétiennes séparées. Heureusement, après 50 ans d'œcuménisme très actif, il faut intensifier et augmenter cette communion pour que la séparation visible puisse être surmontée. Et ça, c'est tout le travail de l'œcuménisme. Fort à propos, avant de se pencher sur les éléments essentiels de la communion, foi, sacrement, ministère, avant de se pencher sur ces éléments essentiels de la communion qui appellent une croissance de communion entre nous, le chapitre 3 commence par rappeler le mystère théologal qu'est l'Église et sa réalité eschatologique. L'Église anticipe déjà réellement le royaume, mais n'en est pas encore, bien sûr, la pleine réalisation. Ce rappel me paraît capital pour ne jamais perdre de vue la finalité eschatologique de l'Église, sa mission au service du royaume lui-même, et donc pour nous libérer de notre ecclésiocentrisme si spontané, nous aider à relativiser sainement nos dissensions ecclésiologiques et ministérielles. C'est le royaume de Dieu qui doit toujours être le centre de nos préoccupations. C'est le royaume de Dieu qui doit toujours être ce centre. Si des signes visibles et tangibles expriment que cette vie nouvelle est déjà réalisée dans l'Église, l'Église est encore à distance du royaume. Du fait qu'elle est une réalité historique dans l'histoire, elle se compose d'êtres humains soumis aux conditions du monde et de l'histoire, changements, facteurs culturels. Elle est aussi confrontée à la réalité du péché, en ses membres, individuellement, collectivement, institutionnellement. La sainteté, nous dit le numéro 36 du document, la sainteté exprime l'identité de l'Église selon la volonté de Dieu, alors que le péché est en contradiction avec cette identité. Fin de citation. Même s'ils ne sont pas la finalité même de la vie chrétienne et ecclésiale, et précisément parce qu'ils sont et pour qu'ils soient plus authentiquement au service du royaume, les éléments essentiels de la communion, foi, sacrement, ministère, doivent bénéficier d'une croissance de communion entre églises confessionnelles. Alors je reprends ces différents éléments essentiels de la communion. la foi. S'il est vrai, numéro 38 du document, s'il est vrai que la foi doit être interprétée dans le contexte de temps et lieux toujours différents, ces interprétations doivent rester en continuité avec le témoignage originel et avec son explication fidèle au cours des âges. Et la foi doit être vécue dans une réponse active aux défis de chaque temps et de chaque lieu. Donc une foi fidèle à ses origines, au passé, et en interaction avec le présent. S'il peut marquer son plein accord avec cette affirmation de principe, un catholique, mais d'autres théologiens sans doute diraient la même chose, un catholique demandera aussi des précisions quant aux critères de cette explication fidèle du témoignage originel. Selon quels critères peut-on dire qu'une explication actuelle du témoignage chrétien originel est fidèle ? Si de nombreux dialogues bilatéraux, continue notre document, ont reconnu que l'interprétation ecclésiale du sens contemporain de la parole de Dieu impliquait l'expérience de foi du peuple tout entier, les réflexions des théologiens et de discernement du ministère ordonné, il n'y a pas encore d'accord quant au mode d'interaction de ces trois facteurs. Peuple tout entier, théologien, ministère. Après s'être véritablement mis à l'écoute de l'expérience de foi du peuple entier et des théologiens, le discernement du ministère ordonné est-il décisif ? Point d'interrogation. Deuxième élément de communion, les sacrements. Sur la base du baptême et de dialogues bilatéraux, une large convergence est constatée à propos du baptême et de l'Eucharistie. Par le baptême, avec de l'eau, donc je cite le document numéro 41, « Par le baptême avec de l'eau, au nom du Dieu Trine, Père, Fils et Saint-Esprit, les chrétiens sont unis avec le Christ et les uns avec les autres dans l'Église de tous les lieux et de tous les temps. » Belle définition et pleine d'espérance du point de vue œcuménique. D'autres éléments scripturaires de compréhension du baptême sont aussi donnés dans le texte qui permettent de considérer le baptême dans toutes nos églises. Le baptême au nom de la Trinité, un baptême d'eau au nom de la Trinité, de le considérer comme un lien fondamental d'unité. Ça nous est vraiment commun et c'est fondamental. Reste la question pendante, qui peut être baptisé ? Notamment la question, peut-on baptiser des enfants ou faut-il être adulte pour être baptisé ? Voilà, c'est notamment la question qui nous divise avec les baptistes notamment. Reste aussi la question de la chrismation ou confirmation comme un des sacrements de l'initiation chrétienne. Est-ce que c'en est un ? Là, il n'y a pas encore de convergence. Mais l'accord général sur le baptême est néanmoins tel que certaines églises ont appelé, et j'espère que ça va continuer, ont appelé à la reconnaissance mutuelle du baptême. Ce n'est pas encore généralisé, mais il faut certainement aller dans cette direction. Il existe une relation dynamique et profonde entre le baptême et l'Eucharistie. L'Eucharistie donnant une expression plus pleine à la communion dans laquelle entre le chrétien nouvellement initié et l'Eucharistie nourrissant cette communion dans laquelle entre le chrétien nouvellement initié. C'est une citation du texte. Il y a accord pour affirmer, entre autres, à propos de la scène eucharistique, il y a accord, et c'est considérable, il y a accord pour affirmer entre autres que la scène est la célébration au cours de laquelle les chrétiens reçoivent le corps et le sang du Christ, que c'est un mémorial de la mort et de la résurrection du Christ Jésus et de ce qui a été accompli une fois pour toutes sur la croix, et une invocation de l'Esprit Saint pour qu'il transforme à la fois les éléments du pain et du vin et les participants eux-mêmes. Considérable. En outre, la célébration de l'Eucharistie est inséparable d'une vie cohérente de service et de témoignage. Il n'en demeure pas moins certaines divergences. Le baptême, l'Eucharistie et d'autres rites doivent-ils être qualifiés de sacrements ou d'ordonnances, selon le texte ? Personnellement, mais je parle en catholique bien sûr, personnellement je ne vois pas de raison de remettre en question une appellation et une compréhension qui remontent aux origines chrétiennes, d'autant plus que le sacramentum latin traduit le mysterion, le mystère néo-testamentaire, mystère qui désigne l'œuvre salvifique de Dieu. Mais quoi qu'il en soit de l'appellation, le plus important, me semble-t-il, est de tenir ensemble les deux dimensions des sacrements ou ordonnances reconnues par le document. Donc, tout d'abord, la dimension instrumentale du sacrement ou ordonnance, c'est-à-dire Dieu s'en sert vraiment pour instaurer une réalité nouvelle. Et deuxième dimension, la dimension expressive. Les sacrements ou ordonnances expriment une réalité déjà existante. Sur cette base, deux questions doivent absolument être approfondies. Donc, sur cette compréhension commune fondamentale du sacrement, deux questions doivent être évoquées. Celle que j'ai déjà signalée tout à l'heure, qui peut recevoir le baptême ? Et l'autre question, qui peut présider aux célébrations liturgiques de l'Église, et notamment, qui peut présider à la scène ou à l'Eucharistie ? Ce sont deux questions qu'il va falloir approfondir. Par extension, combien d'autres sacrements y a-t-il ? Voilà, c'est une question ouverte. Confirmation, mariage, ordination, pardon des péchés, bénédiction des malades. Mais plus largement encore, peut-on parvenir à un plus grand degré d'accord entre les églises qui célèbrent ces rites et les communautés chrétiennes convaincues que le partage de la vie en Christ ne requiert pas la célébration de sacrements ou d'autres rites. Hein. C'est le cas des Quakers, hein, c'est ça. Après la foi, les sacrements, troisième élément de communion, le ministère dans l'Église. Ah, le ministère dans l'Église. Tout d'abord, le ministère ordonné. L'affirmation du « une fois pour toutes » (Ephapax), une fois pour toutes, du sacrifice de rédemption de Jésus, unique grand prêtre, dans le texte grec, archiéreus, dans la traduction latine, on parle de sacerdotium. Mais donc, le une fois pour toutes du sacrifice de Jésus, unique grand prêtre désormais, me paraît tout à fait essentiel en fidélité à la lettre aux Hébreux. Nombreuses citations sont possibles. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus qu'un grand prêtre, au sens sacerdotal, de médiateur entre Dieu et les humains. Il n'y a plus qu'un seul sacerdoce, le sien. Sur l'unicité de cette médiation du Christ, unique grand prêtre, il y a accord entre chrétiens. Mais, des implications différentes en sont tirées concernant la conception des ministres ordonnés. En tant que catholique, j'aurais mauvaise grâce à ne pas le faire, en tant que catholique, je puis marquer mon accord avec le paragraphe 17 du BEM, qui est cité au numéro 45 de notre document. Je peux marquer mon accord avec ce paragraphe, spécifiant, je cite, que les ministres ordonnés peuvent être proprement appelés prêtres, au sens sacerdotal, je suppose. C'est une traduction de l'anglais, hein, c'est « priests » en anglais. Peuvent être proprement appelés prêtres parce qu'ils accomplissent un service sacerdotal, en français, mais en anglais c'est « priestly ». Un service sacerdotal particulier en fortifiant et en construisant le sacerdoce, « priesthood », royal et prophétique des fidèles par la parole et les sacrements, par leurs prières d'intercession et leur direction pastorale de la communauté. Fin de citation. On indique par là que le ministère ordonné, et je cite à nouveau, entretient une relation spéciale avec le sacerdoce unique du Christ, lequel est distinct, quoique lui étant lié, du sacerdoce royal décrit en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, fin de citation du numéro 45. Donc c'est un document de foi et constitution qui est d'accord pour dire cela ensemble. Je puis reconnaître la légitimité et l'orthodoxie d'une telle vision nuancée quand même du ministère ordonné, ayant pour elle une longue tradition. Et pourtant, je ne puis m'empêcher de la trouver ambiguë en tant que théologien catholique. Et là aussi, il y a une réelle diversité au sein de l'Église catholique. En effet, les ministères chrétiens, dans le Nouveau Testament, ne sont pas décrits en termes sacerdotaux. Même dans la lettre aux Hébreux, il ne s'agit pas des ministères chrétiens, mais du sacerdoce unique et exclusif du Christ, et encore exposé dans le langage vétérotestamentaire. Dans le Nouveau Testament, ce sont des termes de fonction non liés au sacerdoce d'Aaron et au temple de Jérusalem qui sont utilisés. Presbytre, ancien, épiscope, superviseur, diacre, serviteur, président, pasteur, chef, guide, ces ministres de la parole fondamentalement sont institués par les apôtres dans et à la tête d'une communauté par le moyen d'une imposition des mains et d'une invocation de l'esprit. Le ministère ordonné chrétien doit donc être pensé, me semble-t-il, comme un charisme spécial de l'esprit, un don durable et transmissible pour un ministère stable au service du bien et de la croissance d'une communauté. Dans le Nouveau Testament, le ministère ordonné n'est pas pensé dans la ligne du sacerdoce. Il faut dès lors, me semble-t-il, beaucoup de prudence et de nuance pour penser le ministère dans les termes du sacerdoce. Il faut beaucoup de prudence, beaucoup de nuances. Et en tout cas, moi personnellement, dans mon langage, j'essaie d'éviter à tout prix le langage sacerdotal pour parler et penser les ministères chrétiens. Ceci dit, l'invocation de l'esprit et l'imposition des mains sur le futur ministre me paraissent essentielles, et scripturaires d'ailleurs. Et c'est cela l'ordination. Ce don stable, sacramentel, de grâce, octroyé par l'Esprit à une personne pour un ministère stable et indispensable de l'Église dans sa mission au service de l'humanité. Les prêtres sont donc des presbytres, presbyteroi, presbyteri, anciens. D'ailleurs, le mot prêtre, dans la plupart des langues européennes, vient de presbytre, pas de sacerdotesse ou de hiéreis. Les prêtres ne sont pas des sacerdotes, pour reprendre la traduction de Second, mis à propos des grands prêtres juifs. Hein. Ils ne sont pas des sacerdotes, même si ce langage sacerdotal, il faut le reconnaître, ce langage sacerdotal, métaphorique au départ par rapport à l'Ancien Testament, il est vrai, c'est largement imposé dès la tradition chrétienne ancienne, dès la fin du IIe siècle, pratiquement. Dans cette perspective, le prêtre presbytre est à distinguer de l'évêque épiscope et du diacre serviteur de la trilogie ministérielle ancienne. Alors je pose la question à mes frères et sœurs protestants ici présents, est-ce que ces précisions peuvent peut-être faciliter le dialogue écuménique sur les ministères ordonnés? Vous pourrez donner votre avis tout à l'heure. Si la triple structure épiscopos, presbytéros, diaconos est fréquemment reflétée plus ou moins explicitement dans la structure formelle de ministère qui existe dans presque toutes les communautés chrétiennes, celle-ci demeure divisée sur le point de savoir si l'épiscopat historique traditionnel ou plus généralement la succession apostolique du ministère ordonné est quelque chose que le Christ a voulu pour son Église. Là, il reste un lieu de discussion. Cette succession apostolique du ministère ordonné, épiscopal en particulier, est-elle essentielle pour la continuité de l'Église dans sa totalité, comme le tiennent plusieurs églises, ou au moins, cette succession apostolique est-elle importante et désirable? Sur cette question, notamment, il vaut la peine de scruter le document, déjà cité tout à l'heure, le document « Église et justification » de la Commission internationale catholique luthérienne, auquel d'ailleurs notre texte de convergence fait référence. Dans un effort remarquable à mes yeux d'intelligence et de réconciliation pour aller au plus loin à la rencontre les uns des autres, les membres de cette commission catholique luthérienne arrivent à éliminer toutes les fausses oppositions et à cerner ensemble la seule chose qui reste objet de discussion. Je cite, « Le ministère épiscopal est dans la conception catholique un service indispensable à l'évangile, nécessaire au salut. » La différence entre les conceptions catholiques et luthériennes dans l'évaluation théologique et ecclésiologique du ministère épiscopal n'est donc pas, dit le document, n'est donc pas une opposition abrupte entre la position catholique qui le juge nécessaire et une position luthérienne qui le refuserait ou lui serait indifférente. Le ministère épiscopal rattaché à la succession apostolique au plan individuel n'est pas nécessaire au salut. Au plan individuel n'est pas nécessaire au salut. La partie catholique peut affirmer, sur la base de son approche, la nécessité ecclésiale de ce ministère sans que cela contredise la doctrine de la justification. Et la suite du texte indique même qu'à certaines conditions de reconnaissance mutuelle, ministérielle, ecclésiale, la différence dans l'importance donnée à l'épiscopat historique ne devrait plus empêcher le rétablissement de la pleine communion dans l'épiscopat. Fin de citation. J'en viens au deuxième sous-titre, le don de l'autorité dans le ministère de l'Église. Sur la base d'une convergence en progrès sur le thème de l'autorité et de son exercice, des divergences demeurent sur le poids relatif à accorder aux différentes sources d'autorité. On a déjà rencontré cette question récurrente. Quel est le rôle des ministres ordonnés lorsqu'il s'agit de donner une interprétation de la révélation qui fasse autorité? Et cela au service de l'entreprise missionnaire des Églises. Troisième sous-thème, le ministère de supervision, le ministère d'épiscopat. Qu'elles aient ou non un ordre épiscopal, toutes les communautés, estime notre document, continuent à juger nécessaire un ministère d'épiscopat. Dans cette affirmation, ainsi que dans la description subséquente d'un tel ministère, le comité de foi et constitution ne fait-il pas preuve d'un certain optimisme? Est-il sûr que dans chaque cas, dans chaque église de par le monde, dans chaque communauté de par le monde, l'épiscopat soit au service du maintien de la continuité dans la foi apostolique et de l'unité de vie. Qu'outre ses fonctions de prêcher la parole et de célébrer les sacrements, une autre fonction principale de ce ministère soit de sauvegarder et transmettre fidèlement la vérité révélée, de garder les paroisses locales dans la communion, d'apporter un soutien mutuel et de montrer l'exemple pour témoigner de l'Évangile. Point d'interrogation. Je souhaiterais, bien sûr, personnellement, et nous souhaitons tous, que ces différentes fonctions de l'épiscopat soient effectivement exercées dans toutes les églises. Mais est-ce vraiment le cas? Il faudrait quand même regarder les choses de près. Encore faudrait-il, et c'est ici évidemment qu'intervient la nuance catholique, ou l'interrogation catholique, encore faudrait-il que ces différentes fonctions ou dimensions de l'épiscopat trouvent une expression également dans un ministère personnel, et pas seulement dans une organisation synodale et la contribution de toute la communauté, par ailleurs essentielle. En effet, il semble y avoir un accord majoritaire du moins pour tenir que le ministère de supervision d'épiscopat doive s'exercer selon un mode à la fois personnel, collégial et communautaire, comme en prenait acte déjà la première conférence de foi et constitution à Lausanne en 1927, reprise sur ce point ultérieurement par le BEM. Cette triple modalité de la supervision reflète la synodalité ou conciliarité de l'Église, sa communion à tous les niveaux de la vie ecclésiale, locale, régionale et universelle. À ce dernier niveau, universel, se pose notamment la question de l'autorité des conciles écuméniques. Sont-ils normatifs pour l'Église entière ? Qu'il soit reconnu comme normatif ne signifie pas, précisons-le, même si c'est peut-être évident, précisons-le, ne signifie pas qu'ils doivent être simplement répétés, littéralement, sans interprétation de leur visée doctrinale et de leur formulation en fonction des contextes culturels actuels. Il en va de même pour l'Écriture sainte elle-même. Par ailleurs, il semble bien que les quatre premiers conciles dits écuméniques, fondamentaux pour la théologie trinitaire et pour la christologie, il semble bien que ces quatre premiers conciles écuméniques jouissent d'une importance toute particulière, tant dans la tradition latine occidentale que dans la tradition grecque orientale, chalcédonienne en tout cas. Les personnes qui président doivent toujours être au service des personnes dont elles président l'Assemblée pour l'édification de l'Église de Dieu en amour et en vérité. Elles ont le devoir de respecter l'intégrité des églises locales, nous dit encore le numéro 54 du document. Des primautés, des primaties, comme dit la traduction française ici, des primautés sur des territoires plus larges, certainement, qu'une église locale, et même que plusieurs églises locales réunies, donc des primautés sur des territoires plus larges qu'une province ecclésiastique, sont reconnues dès l'Antiquité, sans qu'elles soient en contradiction avec la conciliarité, synodalité de l'Église. Mais des primautés suprarégionales, en quelque sorte, ou régionales, sont reconnues. sans qu'elle puisse éviter non plus, malheureusement, la concurrence entre dirigeants de l'Église. L'histoire de l'Église en est pleine, évidemment. Et ça continue. Progressivement, je cite encore, pour aller plus loin, je cite encore le numéro 55 du document, « Progressivement, l'évêque de Rome a revendiqué une primauté de décision, juridiction et d'autorité d'enseignement qui s'étendrait à l'ensemble du peuple de Dieu, se fondant sur la relation entre cette église locale et les apôtres Pierre et Paul, leurs martyrs à Rome. » Fin de citation. Si un ministère universel de l'unité chrétienne, grâce au dialogue écuménique, apparaît aujourd'hui à plusieurs églises comme une possibilité à étudier, plusieurs églises non catholiques, il reste important, à mes yeux, d'établir une distinction entre l'essence d'un tel ministère et ses modalités d'exercice. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement de faire des adaptations de façade. Il s'agit de repenser en profondeur et écuméniquement le contenu même de ce ministère primatial personnel et d'en fonder la légitimité chrétienne et apostolique à mes yeux. De même, ce ministère universel de communion doit aussi s'exercer sous des formes communautaires et collégiales, comme tout ministère ordonné. Conclusion. En se fondant sur de nombreux dialogues bilatéraux et multilatéraux, notamment le BEM, ce document de foi et constitution a le mérite de faire en quelque sorte la synthèse des avancées écuméniques solides en matière d'ecclésiologie depuis le BEM, de faire œuvre de clarification également en pointant les questions qui restent ouvertes. Nous sommes ainsi en présence d'un texte de convergence de la plupart des églises chrétiennes, en tout cas de toutes les grandes traditions historiques. Les avancées sont importantes depuis 50 ans. Des questions importantes aussi restent, mais sont mieux cernées. Voilà donc pour les églises chrétiennes un instrument très utile de réception et d'approfondissement des avancées écuméniques relatives à la compréhension de l'Église et de ses ministères. Même, et c'est sa limite, si le document se limite plutôt à un inventaire des dialogues écuméniques actuels, sans véritablement ouvrir des pistes nouvelles. Merci pour votre patience.
Radio FM Plus, studio de Montpellier. Croître en communion, perception de l'Église, tel était le mot d'ordre de la rencontre écuménique régionale dont nous venons de suivre une des contributions. Le père Joseph Fameret nous a présenté sa façon d'accueillir le texte officiel de convergence intitulé « L'Église vers une vision commune ». Dans une prochaine rencontre, nous diffuserons un point de vue protestant. Au revoir et à bientôt sur FM+, pour une prochaine rencontre.